Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clément Salazar mais aussi Samuel Bernard, Tiffaine de Rocchini, réalisée ce matin par Charles Le Gargasson qui est de retour et que je salue, ainsi que Anthony Thomasson qui est à la console. Deuxième émission de notre première série de cette septième saison de Culture Monde qu'on a consacrée à la diplomatie en crise. On parlait hier de la Syrie, ce matin nous allons parler de la Turquie et de son rapport difficile avec l'Union Européenne. Nous nous interrogerons notamment sur les conséquences diplomatiques du putsch manqué, sur son impact dans les relations entre Ankara et Bruxelles, des relations déjà extrêmement difficiles, alors même que les défis à relever sont nombreux, notamment bien sûr la crise syrienne et l'afflux de réfugiés qui en découle. Turquie, une impasse pour l'Europe, c'est notre sujet ce matin.
Milieu de la nuit en Turquie, des députés tiennent une réunion de crise au Parlement à Ankara quand soudain... une explosion frappe le bâtiment. Un peu plus tôt, vers 22h, des militaires ont pris place dans plusieurs lieux stratégiques du pays. Des chars patrouillent dans les rues.
Lors de l'attaque terroriste de Charlie Hebdo, il y a eu un certain nombre de morts et le monde entier a réagi. Notre Premier ministre a rejoint la marche dans les rues de Paris et j'aurais souhaité que les leaders du monde entier réagissent également à ce qui s'est passé en Turquie. J'aurais voulu qu'ils viennent ici, en Turquie, et qu'ils ne se contentent pas de quelques clichés, mais d'expressions plus fortes, au lieu de condamner les démarches bureaucratiques contre la tentative de putsch.
Dès le lendemain du coup d'État, le président turc Erdogan entamait une purge de l'opposition extrêmement radicale. Des universitaires, des journalistes, des auteurs comme Asli Erdogan, emprisonné depuis la semaine dernière, font les frais du climat de psychose. Sur le plan diplomatique aussi, les conséquences n'ont pas tardé à venir. Le président turc, critiquant le manque de soutien des Occidentaux, menaçant les Européens de ne pas respecter l'accord sur les réfugiés passé avec Bruxelles, exigeant des États-Unis qu'ils extradent celui qu'ils considèrent comme étant à l'origine du coup de force, l'idéologue et imam Fethullah Gulen, exilé en Pennsylvanie depuis 1999. Alors, cet accord sous-traitant la gestion des réfugiés est-il effectivement remis en cause par le refroidissement diplomatique ? Quid alors de la question de la libéralisation des visas pour les ressortissants turcs ? Plus encore, quelle actualité pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne dans ce contexte de tensions extrêmes ? Puis par ailleurs, comment comprendre le rapprochement entre Ankara et Moscou, malgré les divergences politiques ? Pied de nez aux Européens ou nouvelle donne dans le système d'alliance ? Quel avenir pour les relations turco-européennes ? Voilà la grande question qui va nous intéresser ce matin. Pour l'aborder, on va retrouver deux invités. D'abord, en duplex depuis Aix-en-Provence, Marc Pierini, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. Vous l'avez été de 2006 à 2011. Et puis vous êtes par ailleurs chercheur auprès de Carnegie Europe. Et vous aviez été l'auteur d'un ouvrage sur la Turquie. Où va la Turquie ? Point d'interrogation. Carnet d'un observateur européen qui était paru chez Actes Sud en 2013 maintenant. Également à vos côtés, avec moi ici en studio, Emre Demir, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste et vous êtes rédacteur en chef et fondateur de l'hebdomadaire Zaman France. Mais devrais dire, vous étiez en réalité. Nous sommes ici à Culture Monde abonnés à la newsletter du journal Zaman France et hier nous avons reçu par courriel ce message, j'en lis un petit extrait, c'est avec regret et tristesse que nous annonçons à nos lecteurs la fin de la parution papier et internet de Zaman France. La violence du climat politique actuel en Turquie et la tournure inquiétante qu'ont prise les événements ne permettent plus en effet à notre rédaction d'accomplir correctement son travail journalistique au vu des risques sécuritaires grandissants qui pèsent actuellement sur nos abonnés et nos lecteurs, ainsi que ceux qui frappent plus spécifiquement les membres de la rédaction de Zaman France. Donc vous n'êtes plus aujourd'hui en capacité d'écrire votre journal, Emre Demir.
Oui, c'était une décision très difficile à prendre. Nous sommes tristes, mais à l'heure actuelle, dans un moment où enfin, tous les lecteurs de Zaman en Turquie déjà sont considérés comme un membre d'une organisation terroriste de Fethullah Gulen. Zaman, c'est un journal réputé proche de Fethullah Gulen. Donc, en Turquie, il y a des milliers de gens qui sont en prison actuellement juste parce qu'ils lisaient Zaman. Ici, en France, on assiste vraiment à un travail, à une tentative d'obtenir la liste de nos abonnés par l'État turc, mais aussi à une campagne de dénonciation organisée par l'État turc incité par l'État turc et relayé par les réseaux pro-AKP, les associations franco-turques ici en France. Du coup, le menace pèse sur nos milliers d'électeurs. Dans cette situation actuelle, on ne peut pas protéger malheureusement nos lecteurs. Donc on a décidé tout simplement d'arrêter, de se fermer. En fait, ce qui est triste, c'est que c'est un journal français, c'est un média français qui se ferme à cause de la répression d'un pays tiers.
Et parce qu'on vous reproche d'être un proche du réseau guliniste.
Oui, bien sûr.
Vous pensez que vous pourrez rapidement réouvrir, réécrire, refaire votre métier ?
Enfin, nous n'avons pas réfléchi vraiment à la suite. La décision, déjà, ça a été très difficile, mais je ne pense pas qu'on peut éventuellement envisager une réouverture des AMA France dans une période assez proche. Donc, c'est imprévisible. Et mes collègues sont partis, ils vont chercher d'autres opportunités. On peut dire que l'aventure de AMA France, c'est terminé, c'est fini maintenant.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous ce matin dans cette période un peu difficile. Marc Pierini, je me tourne vers vous. Vous avez entendu là le président turc Erdogan qui a beaucoup critiqué la timidité, je vais utiliser ce terme, avec laquelle les chefs d'État et de gouvernement européens ont dénoncé le coup d'État. Pour lui, ils auraient dû en faire beaucoup plus pour apporter leur soutien. Il rappelait d'ailleurs qu'il avait envoyé son premier ministre en novembre dernier, juste après les attentats de Paris. Est-ce que vous comprenez cette critique ou il vous semble que finalement l'Union européenne a fait ce qu'elle devait faire, Marc Pierini?
Je comprends la critique quand je l'écoute dans le contexte de discours nationaliste qui est le contexte actuel en Turquie. Ce que ce discours ne dit pas, c'est que dans les heures qui ont suivi le coup d'État, avant même de connaître le résultat final de cette tentative de coup d'État, toutes les instances européennes, de la chancelière Merkel jusqu'aux responsables des institutions de l'Union européenne, plus le Conseil de l'Europe, plus l'OTAN, plus le président américain, ont tous condamné le coup d'État et ont dit leur soutien aux institutions légitimes, le président, le parlement et le gouvernement, en Turquie. Ce qui n'a pas plu à Ankara, c'est que dans la foulée, dans le même souffle, ils ont dit il faut soutenir l'État de droit parce que c'est la règle, mais il faut aussi que l'État de droit s'applique pendant la période de correction de ce coup d'État qui va inévitablement suivre, parce que c'est là un choc énorme pour l'État turc, c'est une perte de prestige, c'est une déstabilisation.
Pour l'État turc et pour l'opinion elle-même, qui quand même, il faut le rappeler, est traumatisée. Absolument. Par une série de coups d'État. Or, ce qu'il faut dire aussi, vous avez raison, il y a eu des communiqués.
Très différent, en ce sens que pour la première fois dans la série des coups d'État de la Turquie contemporaine, l'armée a bombardé le Parlement, la présidence, la police, les services spéciaux, etc. Et il faut se rappeler que depuis des années maintenant, peut-être depuis 8 ou 10 ans, les sondages disaient tous unanimement que 80-85% de la population rejetait les coups d'État. C'est-à-dire, c'est très au-delà du soutien à l'AKP, ça veut dire que la quasi-totalité de l'opinion turque était contre. Donc un immense choc, mais le discours du pouvoir turc est très nationaliste, il est anti-américain, anti-européen en ce moment, parce que le pouvoir est déstabilisé et aurait aimé engranger un soutien de l'Occident au passage.
Mais Marc Pierini, j'insiste, mais est-ce qu'on en a fait assez ? Oui, il y a eu ces communiqués, mais regardez ce qu'a fait Vladimir Poutine. Il a immédiatement pris son téléphone et il a appelé Erdogan pour lui son soutien de façon directe. Ce que dit par exemple Erdogan, ce qu'il a dit à la télévision italienne, il a dit Federica Mogherini, donc la chef de la diplomatie européenne, aurait dû venir en Turquie pour soutenir officiellement le régime turc. Quand le secrétaire d'État est allé en Turquie, il a dit qu'il regrettait finalement de ne pas être venu plus tôt. Un soutien plus direct, c'est ça qu'il voulait.
Oui, en effet. Alors, tout d'abord, premier commentaire sur le président russe. Le président russe a une stratégie anti-Union européenne et anti-OTAN. Et donc, il a immédiatement capitalisé sur le coup d'État en Turquie en apparaissant comme celui qui soutient et qui, évidemment, connaissant la Russie, n'a pas d'angoisse sur l'état de droit en Turquie. Bon, c'est pas le cas des Occidentaux. Ils ont des inquiétudes sur l'état de droit en Turquie, voire les purges qu'on savait bien aller suivre le coup d'État. Alors, ceci étant, depuis la semaine dernière, il y a eu une série de visites ministérielles. Cette semaine, après-demain, il y a le président du Parlement européen. Une fois que l'émotion se sera calmée, on verra bien qu'il y a deux ancrages pour la Turquie. L'ancrage sécuritaire, c'est l'OTAN et les États-Unis. L'ancrage économique, c'est l'Europe. Et il faudra bien se remettre à travailler. Et il y a beaucoup de sujets pour travailler ensemble. Pas l'adhésion, mais beaucoup d'autres.
Emre Demir, vous disiez récemment dans une interview que ce coup d'État était, je vous cite, un atout pour faire pression sur l'Europe et les États-Unis pour racheter leur silence face aux purges massives. Pour vous, assez clairement, ce coup d'État, c'est quelque chose qui va renforcer la légitimité d'Erdogan, en tout cas de l'intérieur. Et peut-être même que de l'extérieur, on va finalement un peu oublier les dérives autoritaires, craignant finalement d'une certaine manière que son départ amène le chaos en Turquie et dans l'ensemble de la région.
Déjà, bien sûr qu'Erdogan a renforcé son régime à l'intérieur du pays, donc il est maintenant l'acteur incontournable, il n'y a aucune possibilité pour lui, c'est lui qui va décider quand il va partir, ça c'est sûr. Par rapport aux pressions à l'Europe et, aux États-Unis, évidemment c'est une carte à jouer pour Erdogan, et actuellement, je sais pas, il y a plus de 80 000 personnes qui ont été détenues. Il y a actuellement 107 journalistes qui sont en prison. Ce matin encore, il y avait 34 journalistes de plus qui ont été arrêtés. Et donc, dans ce climat actuel, dans une hystérie totale, et donc cette carte est très très précieuse pour Erdogan. Il l'a utilisée évidemment dans chaque meeting avec un discours anti-occidental, anti-européen, avec ses déclarations. Évidemment, il facilite aussi ses relations avec l'Europe. Comment, là par exemple, c'est très difficile pour, on le sent aussi, très difficile pour les officiels européens, pour les leaders européens, de critiquer frontalement de ce qui se passe. En Turquie, par exemple, les premiers jours, les leaders européens étaient beaucoup plus vocaux par rapport à ce qui se passe en Turquie, les purges, etc. On voit une silence relative qui pèse actuellement, qui continue depuis quelques semaines, alors que la situation s'aggrave de plus en plus en ce qui concerne les purges. Donc, c'était une stratégie, et je pense pas qu'il ait Erdogan et sérieusement considère de couper toutes les relations avec l'Occident, mais c'est encore une manœuvre tactique de la part du gouvernement turc, évidemment, pour acheter le silence de l'Europe.
Vous parlez d'hystérie, et puis ensuite, on va se retourner vers Marc Pirini pour voir jusqu'où, justement, pourrait aller cette crise diplomatique. Mais l'hystérie, finalement, elle a gagné beaucoup de Turcs. Quand on voit les sondages et qu'on compare les opinions favorables avant et après le putsch, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on avait un peu moins de 40%, je crois, 38% de mémoire d'opinions favorables avant le coup d'État. Aujourd'hui, on est à quasiment 70%, voire plus d'opinions favorables. C'est-à-dire que le peuple turc fait front derrière son président.
Oui, c'est
très majoritairement.
C'est compréhensible aussi, car c'était enfin, 15 juillet, c'était pas vraiment un coup d'État, ça ressemble pas à un coup d'État, en fait. C'était une attaque terroriste, vraiment, contre la Turquie. C'est ce qui s'est passé, c'était un choc national. Les gens ont été terrifiés cette nuit-là. Il y a vraiment ces sentiments, comme les Turcs vivent avec les réfugiés syriens. Il y a des millions de réfugiés syriens qui vivent dans des rues d'Istanbul, Izmir, etc. Et donc, à peu près chaque Turc, il pense chaque jour ça. Est-ce qu'on peut devenir le deuxième Syrie? Donc, cette peur qui s'est installée en Turquie a été revivée par ce tentative de coup d'État. Si le tentative de coup d'État était une réussite, la guerre civile en Turquie, c'était presque garanti. Donc, cette peur a rassemblé, bien sûr, on cherche dans le moment de crise un homme providentiel, un homme fort, et qu'on se réunit derrière lui. Donc, évidemment, Erdogan profite de cette situation, et c'est tout à fait normal que les gens, que la population entière se réunit derrière un leader civil, un gouvernement élu. C'est compréhensible. On verra si c'est temporaire, si cela va durer comme ça. Évidemment, il y aura une certaine normalisation. Ça fait maintenant à peu près 45 jours, mais je pense que les esprits vont se calmer. Il y aura certainement une normalisation politique en Turquie, bon, en tout cas, je l'espère.
Marc Pierini. Alors, certains pays européens, on l'a vu, se retrouver directement sous le feu des critiques d'Erdogan. Alors, on peut penser évidemment à l'Autriche, dont l'ambassadeur a été convoqué après la publication d'un texte par un journal, mais aussi après les mots du chef du gouvernement qui avait appelé à rompre les pourparlers d'adhésion avec l'Union européenne. On peut penser aussi à l'Italie, que Erdogan a directement ciblé, notamment à cause de cette affaire dans laquelle son fils, Bilal, étudiant à Bologne, a fait l'objet d'une plainte venant d'un opposant turc réfugié en France qui l'accuse d'avoir fui avec une grosse somme d'argent. La question qui se pose, c'est au fond, jusqu'où peuvent aller les tensions entre Ankara et l'Union européenne? est-ce que la rupture totale est possible? Et alors là, on pense bien sûr à cet accord signé en mars dernier sur les réfugiés. Cet accord qui prévoyait le renvoi des réfugiés arrivés en Grèce vers la Turquie et le transfert d'un nombre équivalent de réfugiés présents en Turquie vers l'Union européenne. Le tout moyennant, bien sûr, de grandes concessions offertes à Ankara par l'Union européenne, c'est-à-dire la réouverture des négociations d'adhésion dans l'Union européenne, on va en reparler, le versement, il faut le rappeler aussi, de 6 milliards d'euros, et puis la suspension, bien sûr, de l'obligation de visa pour les ressortissants turcs qui se rendent dans les États membres de l'UE. Est-ce que cet accord, aujourd'hui, sur les réfugiés, est en péril depuis le coup d'État, Marc Pirini?
Alors, première remarque, ce coup d'État est une étape dans une crise politique qui dure en fait depuis 2013, depuis les manifestations de Gezi. C'est une crise politique multiforme. L'État de droit se dégrade, justice, liberté d'expression, le conflit avec le PKK, la situation économique n'est pas bonne, l'échec de la diplomatie dans la région. Donc il y a beaucoup de choses, des accusations de corruption bien entendu. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées et le coup d'État c'est un petit peu le... c'est pas le coup de grâce, mais c'est quelque chose qui amplifie la crise précédente. Tout cela provoque un sursaut nationaliste qui est très compréhensible parce que n'oublions pas que pendant 86 ans, de 1926 à 2012, on a enseigné la théorie du complot à l'école secondaire, enseignée par un militaire en tenue, une heure par semaine. Donc tout le monde y a participé et c'est un réflexe qui marche très bien et dont le pouvoir turc se sert très bien. Alors maintenant... un journaliste anglais a utilisé une belle expression, il a dit « La Turquie, pour le moment, est en état d'hyperventilation collective ». C'est-à-dire que ce discours nationaliste marche très bien, les accusations envers l'étranger, ça marche très bien, mais à la fin des fins, il faut bien faire fonctionner la Turquie, il faut faire redémarrer l'économie. D'ailleurs, l'accord avec la Russie, c'est pour ramener les touristes, recommencer les contrats de construction et les exportations vers la Russie et les travaux sur le gazoduc. Bien. La même chose avec l'Europe. Alors maintenant, sur votre question particulière de l'accord avec les réfugiés, il y a tout un narratif du pouvoir turc qui dit « cet accord ne marche pas, l'Europe n'a pas tenu ses promesses ». Alors, ce que ça veut dire, c'est que d'abord, il y a une tranche de 3 milliards... qui est en cours de mise en œuvre, qui bénéficie aux réfugiés syriens en Turquie et qui allège donc la charge sur la Turquie. Deux de ces 3 milliards seront totalement engagés d'ici la fin du mois de septembre. Naturellement, ce que dit la Turquie, c'est si vous nous aviez confié l'argent, on aurait distribué ça beaucoup plus vite, bien sûr, mais aussi de façon beaucoup plus politique. Bien, alors ça marche. Il y a des bénéfices pour la Turquie, il y a des bénéfices surtout pour les réfugiés syriens. Les autres éléments dans cet accord bizarre qui a été passé en mars et qui avait été négocié au cours des 6 mois précédents, bien, l'accord sur les visas, c'est une négociation qui a été lancée bien avant, en 2011 et puis en 2013. Donc il y a des conditions. Elles ne peuvent pas être remplies par la Turquie aujourd'hui. Ça prendra un peu plus de temps et on verra.
Hey, mais sauf que voilà précisément un moment opportun, j'allais dire, pour la Turquie, pour tordre le bras de l'Union européenne. Et d'ailleurs, elle l'a fait déjà assez directement, oui, puisque le ministre turc des Affaires étrangères a fixé un ultimatum en octobre en disant, au-delà de cette date-là, la Turquie n'acceptera plus le renvoi de réfugiés vers son territoire. Donc, est-ce que les Européens vont pas être obligés, finalement, de répondre aux exigences d'Ankara?
Alors, les Européens ont un certain nombre de principes sur la négociation d'adhésion. Il y a des critères à remplir qui ne le sont pas. Et sur la question de la loi antiterroriste qui fait partie des négociations sur les visas. Mais la menace, l'ultimatum, que faire? On va envoyer des convois d'autocars vers la frontière bulgare et on va reprendre les envois de dinghy, de canots pneumatiques vers la Grèce. Déjà, les départs de la région d'Izmir vers les îles grecques ont été multipliés par 4 au lendemain du coup d'État parce que toute la surveillance policière turque a été supprimée et que les officiers de liaison de la police turque dans les îles grecques ont été rapatriés.
Donc vous voulez dire que l'accord, là, déjà l'accord n'est plus appliqué aujourd'hui.
La Turquie ne remplit pas ses propres engagements. Alors moi, je ne crois pas à ce que ces menaces soient très opérationnelles, en ce sens que comment, la Turquie se débarrasserait de sa posture de compassion envers les Syriens et les enverrait à l'aventure ou à la mort sur la mer ou sur les routes, et deuxièmement, se priverait d'un bénéfice de 3 milliards dans une première étape et de 3 autres milliards dans une deuxième, qui allège son budget. Je vois pas comment une crise supplémentaire aiderait la Turquie dans la phase de déstabilisation profonde où elle se trouve actuellement.
Emre Demir, votre avis sur cet accord sur les réfugiés dont Marc Pirini nous dit que ça y est, il est déjà plus appliqué et que le coup d'État a déjà eu des effets sur ce fameux accord qui avait été mis en place en mars dernier. Emre Demir.
En fait, quoi que ce soit, oui, le lendemain de 32 de putsch, évidemment, il y a eu voilà des problèmes, etc. Mais depuis une semaine, même deux semaines, je pense que le contrôle est toujours sur la place et que au moins sur le court terme, enfin ce contrôle de frontières turques, ça marche toujours et c'est bénéfique sur le court terme encore pour l'Union européenne. Donc la Turquie partiellement tient ses promesses. Pour revenir à la libéralisation des visas, donc une condition pour continuer en fait à cet accord de la part d'Ankara. Je ne pense pas qu'Erdogan donne beaucoup d'importance à la libéralisation des visas. Évidemment, c'est une bonne chose. Il peut utiliser ça pour sa campagne politique.
C'est important pour les Turcs.
C'est important c'est ce pour les Turcs, mais pas tellement. C'est pas une question essentielle pour Erdogan. Je ne crois pas. Il n'y a pas un débat, par exemple, national en Turquie. Personne ne pose cette question en Turquie, ni dans les médias, ni c'est pas. Donc, la libéralisation des visas, ça va affecter une petite partie de la population turque. Donc, et surtout la population aisée, urbaine, etc. Donc, c'est pas un grand avantage pour Erdogan. Justement, il utilise en fait la libéralisation des visas comme la Turquie, le gouvernement turc ne vont pas remplir les critères nécessaires, 70 critères nécessaires pour assurer la libéralisation des visas. C'est aussi une carte à jouer, à négocier avec l'Europe pour peut-être obtenir plus d'aide en ce qui concerne les réfugiés syriens. Et puis cela montre aussi la nature d'Erdogan. Erdogan, c'est un pragmatique, c'est un équilibriste. Et il voit aujourd'hui dans une position de force contre les leaders européens. Et il joue ses cartes dans cette manière. À mon avis, le discours anti-occidental, le discours anti-européen, enfin ce discours qui accuse systématiquement l'Union européenne de l'hypocrisie, de double standard. C'est aussi une stratégie. Le but, c'est ne pas vraiment obtenir la libéralisation du visa. Si ce sera le cas, c'est bien, évidemment, pour Erdogan. Mais le but, à mon avis, c'est beaucoup plus important. Et que Erdogan montre qu'il est. C'est lui qui contrôle le pays. C'est lui qui est. C'est le leader qu'il faut négocier, car c'est lui qui tient les cartes en ce qui concerne les crises des réfugiés, mais non seulement la crise syrienne, le contrôle des djihadistes, etc. L'Europe, dans ses yeux, dans les yeux d'Ankara, l'Europe est un peu l'otage du gouvernement turc actuel. Ça ne reflète pas entièrement la situation, mais aux yeux d'Ankara, c'est ça la situation. Il le voit dans une position de difficulté et il les exploite parce que c'est un rapport de force, la diplomatie pour Erdogan.
Marc Pirini, pour bien comprendre hein, ce rapport, ces relations entre la Turquie et l'Union européenne, il faut faire peut-être entrer un autre acteur en jeu. On se souvient bien sûr de la crise diplomatique qui avait émergé entre Ankara et Moscou quand un avion russe avait été détruit par l'armée turque à la frontière syrienne. Depuis, la normalisation a été enclenchée puisque le 9 août dernier, Erdogan et Poutine se sont rencontrés, se sont retrouvés à Saint-Pétersbourg pour sceller justement cette réconciliation. Comment interpréter ce rapprochement? Est-ce que c'est absolument vital pour Ankara? Et est-ce que c'est pas aussi une manière de provoquer les alliés occidentaux et notamment l'Europe? Marc Pirini.
Oui, en partie. C'est-à-dire que ça va avec le discours nationaliste, le leader fort qui se sent abandonné ou en tout cas accuse l'Occident de l'abandonner et donc il se tourne vers d'autres. Tout ça est très bien. La véritable motivation à court terme, elle est double. C'est un, dans une situation d'isolement politique et diplomatique, il faut un succès, il faut montrer que ça bouge quelque part de manière positive. Et deux, c'est la motivation économique, parce que les sanctions russes ont fait très mal. Le tourisme s'est arrêté littéralement. Et donc il faut reprendre ça, les travaux sur le gazoduc, les contrats, etc. Bien. Si vous regardez ça du côté de Moscou, c'est le coup d'État et la fragilisation de la Turquie, c'est une aubaine extraordinaire. Parce que fait M. Poutine depuis deux ou trois ans? Il harcèle régulièrement les défenses aériennes de l'OTAN, que ce soit au nord de la Norvège, en mer Baltique, en mer Noire, et il y a des bombardiers qui contournent l'Europe pour aller frapper en Syrie, etc. Il y a des patrouilles de sous-marins qui ont été multipliées par 10, etc. Donc, se retrouver dans une relation apparemment positive avec la Turquie, ça va avec la stratégie de M. Poutine. Mais ceci étant, il y a des différences majeures entre la Russie et la Turquie, notamment sur la place et le rôle futur des Kurdes syriens dans un règlement politique en Syrie. Je rappelle qu'à la fin septembre l'année dernière, à l'Assemblée générale des Nations unies, M. Poutine a donné sa bénédiction aux Kurdes syriens pour qu'ils aient un rôle politique dans un futur règlement. Ce qui n'est pas du tout
dans la ligne d'Ankara.
Et donc, le prix à payer pour cette belle visite à Saint-Pétersbourg au début de ce mois, c'était de mettre la sourdine sur le départ du président Assad, qui était le point central de la politique turque sur la Syrie. Eh bien, on n'en parle plus. Bon, tactiquement, c'est bien. Après, on va voir ce qui se passe, parce que maintenant, la Turquie, avec son intervention militaire, certes pas très importante, mais quand même, elle est en opposition avec à la fois les Russes et les États-Unis. Donc ça fait beaucoup. On va voir où ça se termine.
Marc Pierini, Emre Demir sont nos invités ce matin pour cette émission consacrée à la Turquie, une impasse pour l'Europe dans cette première semaine consacrée à la diplomatie en crise.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va retrouver une nouvelle invitée depuis Istanbul, c'est Barçın Yinanç. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef opinion au quotidien Hurriyet Daily News. Vous êtes une spécialiste notamment des questions internationales. Alors, on sait que Erdogan, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, en veut beaucoup aux responsables politiques européens qui n'ont pas apporté le soutien qu'il attendait après le coup d'État. Mais qu'en est-il des Turcs eux-mêmes? Est-ce qu'eux aussi, ils considèrent, en tout cas c'est ce que vous constatez ou pas de votre côté, que l'Europe aurait dû condamner ce coup d'État, soutenir Erdogan peut-être plus franchement, malgré la dérive autoritaire qu'il constate également?
Oui, je pense qu'il y a une déception assez grande. Et cette fois-ci, la déception, ce n'est pas limitée à des gens dans les rues, mais plutôt à la classe intellectuelle, les élites, les journalistes, les académiciens. Ils sont déçus de la réaction, ou plutôt de la manque d'une réaction de l'Europe.
Et comment il l'explique? Comment il l'explique?
L'explication, ça vient de deux points. Un point, c'est que il pense que l'Europe n'a jamais vu la Turquie comme part de la famille européenne. Et ce sentiment, elle était toujours là depuis 60 ans, même si la Turquie est membre de l'OTAN, même si la Turquie est membre du Conseil européen, un candidat à l'Union européenne, le sentiment que l'Europe n'a jamais considéré la Turquie comme membre de famille est renforcé. Mais le deuxième point, c'est que il constate aussi, les gens constatent aussi qu'il y a ce mécontentement contre Erdogan. C'est vrai que la majorité de l'Europe, de la classe politique européenne, n'aime pas Erdogan, qui leur ont donné des discours, etc. Mais le problème, c'est que ils ont espéré que l'Europe aurait dû plus que Erdogan quand il regarde la Turquie, d'égaliser la
Turquie. Vous voulez dire que les Européens, Erdogan, finalement, les Européens sont incapables de voir les avancées démocratiques de la Turquie des dernières années, qui sont réelles, au-delà de la personnalité même d'Erdogan. On est obsédé, on est aveuglé d'une certaine manière par Erdogan.
Justement, parce qu'il y a quand même une classe qui est dédiée à la démocratie, qui font un lutte démocratique, et Erdogan, ce n'est pas que la Turquie, et il y a une accumulation démocratique en Turquie avec ses institutions. C'est vrai que Erdogan voudrait voir ses institutions affaiblies, mais il y a une classe qui fait une lutte, Et justement, cette classe, cette lutte a été ignorée. Et ce n'est pas seulement les classes qui veulent la démocratie. Même ceux qui ont soutenu Erdogan, même ceux qui ont sorti dans les rues, justement, pour protéger Erdogan, mais qui étaient contre le militaire, quand même, ils désarmaient d'être appréciés, même si c'était des gens qui soutenaient Erdogan.
Mais est-ce que justement ce soutien, parce que vous n'avez pas toujours été voilà aussi là on sent quand même une forme de soutien, c'est vrai, vis-à-vis d'Erdogan. Or vous l'avez ces dernières années régulièrement critiqué. Est-ce que vous pensez par exemple, est-ce que vous considérez que le contexte fait que les réactions du président turc sont justifiées? Est-ce que les purges massives qui ont lieu en ce moment en Turquie sont justifiées?
Est-ce que j'ai bien compris la question? Est-ce que vous pensez que la réaction, la déception des Turcs est justifiée?
Est-ce que vous pensez que les purges auxquelles on assiste aujourd'hui en Turquie sont justifiées par le coup d'État?
Je pense qu'ils sont justifiés, mais de dire qu'ils sont justifiés, mais il ne faut pas faire attention. Il faut être extrêmement sensitive pendant ce purge-là. Mais le problème, c'est que si nous, on n'est pas tellement étonnés par ce purge, parce que ça fait 10 ans qu'on sentait qu'il y avait cette infiltration, et c'est pour ça qu'on n'est pas étonnés. Mais ça ne veut pas dire que ce purge n'est pas un purge très large. Mmh. Je pense que c'est très large. Je suis sûre qu'il y a des innocents entre ces gens-là. Et je pense que le gouvernement ne fait pas assez attention aussi, mais ça ne veut pas dire que le purge en sa totalité est injuste.
Barshin Yunanch, encore peut-être une question et puis ensuite je vais me tourner vers nos invités qui sont avec nous ici. Vous nous disiez que finalement les Européens étaient peut-être un petit peu aveuglés par Erdogan et du coup n'avaient pas vu les avancées des dernières années de la Turquie. Si on renverse un peu les choses, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui représente pour les Turcs? Est-ce que c'est simplement, j'allais dire, un espace dans lequel on peut éventuellement circuler? On a parlé tout à l'heure de la question des visas et où on peut éventuellement trouver des opportunités de travail, où on peut aller étudier, etc. Ou est-ce que c'est aussi autre chose, c'est-à-dire des valeurs démocratiques, des valeurs de liberté, etc. Barshin Dinanj.
Si vous m'avez posé cette question il y a 20 ans, oui, je pourrais dire, l'Europe, ça représente les moyens de boulot, les moyens de gagner de l'argent, etc., etc., un autre standard de vie. Mais aujourd'hui, je pense que l'Europe représente quelque chose de plus. Ça représente des standards démocratiques. Moi, je suis convaincue que si jamais ce mois-ci, la semaine prochaine, ou dans un an, les Turcs pourraient avoir le moyen de voyager en Europe sans visa. Je suis convaincue que vous n'allez pas voir des milliers de gens qui vont partir en Europe, parce que quand même, il y a un vie assez satisfaisante ici en Turquie. Ce n'est plus l'Europe, ce n'est plus cet centre où on peut trouver de boulot. Donc je pense que l'Europe, quand même, ça représente pour les Turcs les moyens, les standards démocratiques, les libertés fondamentales, etc.
Marc Pierini, vous entendez, hein, aujourd'hui, pour les Turcs, l'Europe, ça ne représente pas ce que ça a pu représenter il y a une dizaine d'années quand vous étiez ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. Hein. C'est assez clair, en tout cas, dans la bouche de Barshin Yunanch.
Dans le commentaire de Barshin Yunanch, il y a une chose qui me frappe. C'est d'abord le rassemblement autour du leader fort, c'est-à-dire le recours. Dans une situation de crise absolument énorme et totalement inattendue pour les citoyens turcs de toutes obédiences politiques, il y a un phénomène qui bénéficie, comme on l'a dit tout à l'heure, au président Erdogan. Bien. Alors, lorsqu'on regarde la réaction des Européens, est-ce que cette réaction des citoyens turcs, qu'on peut comprendre à beaucoup d'égards, parce que le recours, c'est le recours, quand ça va mal, on se tourne vers celui dont on pense qu'il peut maîtriser la situation. Est-ce que ça veut dire que les leaders européens, avec les valeurs qu'ils défendent, doivent accepter une purge sans limite ou doivent, encore plus important, oublier que jusqu'en 2013, le mouvement Gulen, qui est aujourd'hui accusé de tous les maux, était l'allié de l'AKP, allié autour d'un même projet de société religieuse conservatrice, qui est toujours le projet de l'AKP, comme on le voit dans les symboles tous les jours, le voile dans, pour les femmes dans la police, les équivalences de diplômes pour les imams, etc., etc. Ou est-ce qu'ils doivent dire attention, nous, on défend une Turquie démocratique et on pense qu'elle sera mieux servie, et nous aussi, Européens, naturellement, vu l'intensité des liens, par un rétablissement de l'état de droit, un rétablissement de la liberté d'expression, etc. Alors, c'est là le centre de la crise entre M. Erdogan et l'Europe, c'est que il a avec M. Poutine un interlocuteur qui se préoccupe pas le moins du monde de ses critères démocratiques, et il a avec les États-Unis et l'Europe des interlocuteurs qui sont inquiets pour l'avenir de la Turquie. C'est là où on en est.
Merci beaucoup en tout cas à Barçın Yinanç qui était avec nous en direct depuis Istanbul et qui est, je le rappelle, rédactrice en chef opinion au quotidien Hürriyet Daily News. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Emre Demir, la Corse de mars dernier sur les réfugiés dont on parlait tout à l'heure entre Ankara et Bruxelles prévoyait notamment la reprise des discussions pour l'intégration à la Turquie de la Turquie à l'Union européenne. Or, tout le monde sait parfaitement que les perspectives d'adhésion sont bouchés. Le temps de l'élargissement est désormais très loin. Depuis, les crises se sont répétées. La zone euro, les dettes publiques, les réfugiés, etc., etc. D'ailleurs, il n'est même pas sûr, on l'entendait à travers la voix de Barçın Yinanç, que les Turcs aient encore envie d'Europe aujourd'hui. Alors pourquoi ce processus de négociation? À quoi est-ce qu'il sert? À qui il sert? Emre Demir.
En fait, c'est très ironique. Il y a 10 ans, la Turquie avait vraiment une perspective d'adhésion à l'Union européenne. La Turquie, il faut rappeler, le premier quinquennat de l'AKP, du gouvernement d'Erdogan, il savait quand même faisait de réformes très importantes, législatives, pour transposer en fait la jurisprudence européenne en Turquie. Et qu'aujourd'hui, la Turquie n'a jamais été si loin de l'Europe. Et ironiquement, on relance les négociations avec la Turquie. Ça me paraît absolument hypocrite déjà. Et que tout le monde, dans deux côtés, on sait qu'une éventualité d'adhésion turque à l'Union européenne est envisageable avant 20 ans, 30 ans, etc. Et c'est, je vois aussi un changement radical des relations turco-européennes. Car quoi qu'il soit, depuis 100 ans, depuis la fondation de la République turque, on avait quand même, en Europe, on avait cette image de la Turquie, le pays frontalière, le pays qui est un peu le dernier pays de l'Europe qui nous protège ou qu'on partage à peu près le même malheur ou les mêmes intérêts au Moyen-Orient face à la Russie, etc. Donc la Turquie, quoi qu'il soit, faisait partie de l'Europe et que cette relation commence à changer. Donc on passe vraiment la nature des relations change. C'est l'Europe applique clairement une politique de voisinage, enfin on donne de l'argent à Turquie pour qu'il garde les réfugiés. C'est un peu comme, ça me rappelle un peu les accords avec la Libye de Colonel Gaddafi. Et donc c'est une politique de voisinage. Et aussi c'est une relation transactionnelle. C'est une relation transactionnelle entre la Turquie et l'Europe. Ce n'est plus une alliance qui se rassemble autour des valeurs et que dans deux côtés... Oui, les remarques de Barçın m'a beaucoup frappé. En fait, ça montre le changement d'ambiance en Turquie. Évidemment, la Turquie s'éloigne de l'Europe, mais l'Europe aussi a changé, à mon avis, son regard. C'est la nature de la relation avec la Turquie. C'est une relation de voisinage, un peu comme le pays de Maghreb. Bon, c'est un peu exagéré. C'est quand même un pays de candidat, mais quoi qu'il soit, on ne traite pas comme un pays candidat. C'est pas une relation basée sur des valeurs communes. Et ça, c'est un problème, à mon avis, et c'est un changement radical.
Marc Pierini, quand on pense un peu au débat qui avait... Marc Pierini, puis je vous laisse poursuivre, mais ça m'amène quand même une réflexion. Quand on pense au débat qu'il y avait il y a une dizaine d'années à propos de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est-à-dire le coût économique de son intégration, le fait qu'elle était extérieure aux soi-disant aux supposées frontières naturelles de l'Europe, je mets des guillemets, qu'elle ne s'inscrivait pas dans l'histoire et la culture judéo-chrétienne, etc., etc. On peut aujourd'hui formuler quelques regrets, parce que finalement, le coût de la non-intégration de la Turquie, il est colossal, et on ne l'a pas encore payé intégralement. Il est devant nous.
Absolument. Il y a en effet un regret à formuler, qui est que dans la période où le tandem franco-allemand était composé du président Sarkozy et de la chancelière Merkel, on n'a pas joué le jeu. La négociation d'adhésion était toujours doublement conditionnelle. Il y a la condition des chapitres, les critères politiques, etc. Donc point par point, il faut satisfaire des critères. Et puis il y a la conditionnalité des ratifications finales par chaque parlement des États membres, par le Parlement européen et par le Parlement turc. Donc à la limite, il suffisait d'une voix dans un référendum dans le pays X qui aurait eu recours au référendum pour faire capoter la négociation. Et c'était une règle qui était acceptée par les Turcs. Entre-temps, on aurait pu négocier en bonne foi au lieu d'accuser la Turquie à tort et à travers de diverses choses. Mmh. Ça, c'était la situation, disons, en 2008, 2009, 2010, etc. Ce qui s'est passé à partir de 2011, 2012, c'est qu'on a vu un durcissement de la stratégie de pouvoir à l'intérieur de la Turquie, et on a vu apparaître le fait que les conditions de l'adhésion à l'Union européenne devenaient autant d'obstacles au renforcement du pouvoir, à l'époque du Premier ministre, désormais du Président, qui est clairement dans une stratégie de pouvoir absolu, de pouvoir présidentiel, exécutif.
Attendez, vous êtes en train de dire que finalement le rejet de l'Union européenne a servi de prétexte à Erdogan pour avoir de plus en plus de pouvoir, c'est là
non,
où vous voulez
en venir ? Je ne fais pas nécessairement de lien de cause à effet, d'accord. Mais il y a eu certainement une très grande déception au fait que l'Europe ne jouait pas le jeu, ou était considérée comme ne jouant pas le jeu par Ankara. Mais en même temps, il y a eu une stratégie propre au président Erdogan, avant même qu'il soit président, de renforcer son pouvoir. Or, quand vous voyez tout ce qui s'est passé bien avant le coup d'État, la dégradation de l'État de droit, de l'indépendance de la justice, de la liberté de la presse, tout ceci est parfaitement contraire aux critères européens. Mais vous pouvez aussi prendre des critères tout à fait techniques, comme la politique des marchés publics. Les marchés publics en Turquie, c'est un instrument politique de première instance, bien évidemment. Et donc, appliquer les critères impartiaux de l'Union européenne pour gérer les marchés publics, ça ne convient pas au pouvoir turc. Donc on est dans une situation aujourd'hui où la Turquie a en quelque sorte épuisé les bénéfices politiques internes de l'adhésion. Elle a notamment remis l'armée dans les casernes. Elle va le faire encore plus maintenant, naturellement. Et c'était un des critères de la négociation avec l'Europe. Mais au-delà du prestige d'être un pays candidat, un pays en négociation, et donc de l'influence sur l'investissement étranger et sur les notations des agences bancaires, il n'y a plus beaucoup d'éléments dans la négociation d'adhésion qui soient compatibles avec les intérêts du pouvoir turc. Ça, c'est un élément fondamental qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Mais il est bien là.
Emre Demir, avant d'entendre notre dernière intervenante pour cette discussion autour de la Turquie et de ses relations avec l'Europe. Est-ce que finalement tout ça n'était pas un peu prévisible ? Je parle aux Turcs, là, finalement. Une grande puissance comme la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, avec évidemment toute son histoire, sa culture, tout le nationalisme aussi qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que ce sentiment d'humiliation, en tout cas ressenti par ce rejet de l'Union européenne, n'a pas produit assez naturellement cet esprit de revanche qu'on sent extrêmement fort chez Erdogan ? Finalement, est-ce que la dérive autoritaire d'Erdogan, elle n'est pas aussi le produit du rejet de l'Europe ?
Partiellement, on ne peut pas directement accuser l'Europe, les leaders européens. Évidemment, il y a, disons, les leaders européens comme Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Merkel avaient boudé l'adhésion turque. Ça a joué un rôle, évidemment, ça a facilité la tâche.
Boudé, vous êtes gentil, c'est un euphémisme.
Hein. Oui, voilà. Mais finalement, on ne peut pas imputer en fait tous les problèmes du régime turc, du gouvernement turc aux leaders européens. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un peu de points tournants. Les événements de Taksim, de Gezi a été un point tournant très important. Après la rupture avec le mouvement Gulen, le conflit entre Gulen et Erdogan, tous ces facteurs ont facilité, ont renforcé en fait le régime d'Erdogan. Il a durci d'une manière systémique son régime. Et puis aujourd'hui, il a non seulement accaparé l'appareil étatique, mais aussi il contrôle tout étroitement la société civile. Donc on ne peut pas directement, à mon avis, accuser en fait l'Europe. Et un dernier point, le sentiment anti-européen, le sentiment anti-américain, ça existe en Turquie depuis longtemps. Erdogan l'exploite, c'est ça un peu les différences.
Le putsch manqué n'a évidemment pas seulement des conséquences sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il y a également des conséquences dans le domaine de l'administration, des échanges culturels ou encore en matière de coopération universitaire. Aujourd'hui, dans le cadre des négociations sur l'adhésion à l'Union européenne, justement, l'Europe dédie de grosses sommes d'argent pour différents programmes, même si ces budgets ne sont pas toujours dépensés, ils sont quand même alloués. Pour la période 2007-2013, sont près de 4 milliards d'euros qui ont été alloués, un peu plus même pour la période 2014-2020. Alors à quoi sert cet argent alloué à la Turquie et en quoi le coup d'État pourrait-il modifier ses partenariats, ses coopérations entre Bruxelles et Ankara? Je propose d'écouter Claire Vizier, qui est une spécialiste des relations entre la Turquie et l'Union européenne, qui est maître de conférence à l'université Rennes 1, qui est par ailleurs chercheuse attachée à l'Institut des études anatolielles d'Istanbul. Elle est au micro de Samuel Bernard.
Cet argent permet à la Turquie de pouvoir financer sa participation au programme Erasmus. À côté de ça, c'est aussi des projets très très variés. Ça peut être sur l'électricité, sur les prisons, sur les femmes battues, sur les questions régionales, sur les PME. Suite au coup d'État, vous le savez, il y a eu énormément de purges dans l'administration. Au jour d'aujourd'hui, avec les purges, c'est pas du tout certain et ça va certainement dépendre des domaines, qu'on puisse continuer à avoir ce genre de projet. Un exemple, c'est les fameuses bourses Jean Monnet. Elles ont été suspendues pour cette année. Donc c'est le gouvernement turc qui a décidé de les suspendre. Alors c'est très difficile de savoir pourquoi. C'est peut-être une façon pour la Turquie de montrer très fortement son désaccord dans la situation actuelle de la Turquie, quelque chose qui peut nous amener à nous poser des questions.
Donc même à ce niveau, c'est-à-dire non pas le niveau politique ou diplomatique, mais plutôt le niveau administratif, de collaboration entre les administrations par exemple, mais également au niveau des bourses ou encore en ce qui concerne les relations économiques, on est quand même dans un climat de grande incertitude.
On n'est sûr de rien, c'est-à-dire que si vous m'aviez posé la question il y a 6 mois ou il y a un an, je vous aurais dit ne regardons pas uniquement le côté politique, regardons ce qui se passe d'un point de vue administratif, il y a énormément de choses, d'un point de vue social, il y a énormément de projets, alors qui signifie qu'on tisse des liens, qu'il y a des enjeux. J'ai rencontré il y a 6 mois une personne qui s'occupait d'un projet dans la société qui s'occupe de la gestion électrique. Il y avait un enjeu très fort de raccordement des réseaux. Donc on sait aussi que l'Union européenne, elle s'est bâtie sur des questions très pragmatiques et concrètes et qu'il y a des enjeux que sectoriellement, les entreprises ont envie de mener à bout. Donc il y a 6 mois, je vous aurais dit, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent.
Un climat d'incertitude donc chez ces acteurs qui administrent ces échanges, ces collaborations. Il faudra donc attendre les prochains mois pour en savoir plus.
Comment ça va se passer? C'est vrai qu'on a un peu du mal à le savoir, mais il y a quand même cette obligation de devoir fonctionner plus ou moins ensemble. Alors après, peut-être que ça sera sur certains secteurs et que il y aura une remise en cause sur d'autres secteurs. C'est-à-dire, il y a peut-être le choix. Par exemple, il y avait beaucoup de coopération dans le secteur sur les questions judiciaires, sur tout ce qui renvoie aux critères politiques. Bon, peut-être que ça sera mis complètement de côté. Mais jusqu'à quel point l'Europe acceptera qu'il y ait de la part de la Turquie une sorte de sélection sur ce qui lui est proposé. Tout ce qui passe par ces financements, c'est ce fil ténu, c'est presque le dernier fil ténu qui reste avec la Turquie. Et il y a quelques mois, je me souviens, il y avait eu grand questionnement quand il y a eu ce problème avec les universitaires turcs qui avaient signé une pétition et qui ont été mis sous pression du gouvernement. Il y avait eu un début de débat du côté européen, mais est-ce que on remettrait pas en cause un certain nombre de projets, et par exemple Erasmus. Mais remettre en cause Erasmus, ça veut dire couper complètement les ponts avec la Turquie et avec les jeunes turcs et ceux qui ont envie d'aller voir ce qui se passe en Europe. Donc voilà, une marge de manœuvre assez finalement assez limitée pour l'Union européenne.
Voilà, c'était donc Claire Vizier, spécialiste des relations turco-européennes, maître de conférence à l'université Rennes 1, qui était au micro de Samuel Bernard. Emre Demir, il y a quelque chose de très inquiétant, c'est-à-dire que là, on voit là que la rupture, elle n'est pas seulement sur le plan politique et diplomatique, ça va bien au-delà. Erasmus terminé pour la Turquie, Emre Demir. C'est une catastrophe.
C'est évidemment, c'est une catastrophe, car il ne faut pas oublier que les relations entre la Turquie et l'Europe est institutionnel, est économique, mais aussi culturel. Ce sont des relations qui datent de longtemps, au-delà des relations politiques un peu tumultueuses. Il y a quand même, la Turquie est ancrée à l'Europe depuis un bon moment par rapport à son économie, et c'est vraiment inquiétant de voir, par exemple, on n'a pas compris l'annulation des bourses Jean Monnet, une éventuelle annulation d'Erasmus, etc. Toutes ces mesures nous inquiète beaucoup, ça alimente encore les suspicions autour d'un projet sociétal islamique plus en coopération avec l'Iran ou d'autres pays musulmans, etc. Donc s'il s'agit vraiment d'une intention d'une rupture culturelle, institutionnelle et économique avec l'Europe, évidemment c'est inquiétant, et c'est pas si facile aussi, hein. il faut pas oublier non plus.
Marc Pierini, ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce qui va sauver finalement les relations entre la Turquie et l'Union européenne? Est-ce que c'est justement le domaine économique dont on parlait? Est-ce que c'est ça finalement le business qui va sauver?
Je dirais que ce qui peut sauver la relation entre la Turquie et l'Europe au-delà des émotions actuelles, ce sont les intérêts croisés. On vient de parler des projets, par exemple. Moi, dans mes années en Turquie, je gérais à tout moment un portefeuille de 350 projets actifs. Ça allait depuis réviser les procédures de la gendarmerie pour introduire des éléments de droits de l'homme jusqu'à la qualité de l'air ou la connexion électrique avec l'Europe. Alors, dans le domaine économique, il y a quand même, il faut pas l'oublier, une union douanière. La seule union douanière entre l'Union européenne et un pays tiers, c'est avec la Turquie. Ce qui, concrètement, pour nos auditeurs, veut dire que lorsque Renault ou Fiat produisent à Bursa des voitures, c'est complètement intégré à la production européenne. C'est bénéfique pour la Turquie, c'est bénéfique pour l'Europe. Et notre sacro-sainte Clio, chez Renault, elle est fabriquée à Bursa. Et ça génère des emplois et sauve des emplois en France et en Europe. Donc il faut que tout cela continue, c'est tout à fait dans l'intérêt de la Turquie. Là où il y a un doute, c'est évidemment qu'il y a des aspects sociétaux, culturels, éducationnels, Erasmus, Jean Monnet, on vient d'en parler, ou peut-être un durcissement du pouvoir actuel pourrait amener à un divorce plus grand. C'est-à-dire, il y a derrière toute la crise en Turquie, il y a une révolution contre kémaliste, on le sait bien.
Évidemment.
Et donc ça, c'est peut-être un danger à moyen et long terme.
Une rupture qui n'est évidemment pas souhaitable du tout. Merci beaucoup à tous les deux. Marc Pierini, je rappellerai votre ouvrage « Où va la Turquie ?», carnet d'un observateur européen qui était paru chez Actes Sud. Un grand merci à vous, Emre Demir, journaliste, et puis maintenant, on peut dire, ancien rédacteur en chef et fondateur de l'hebdomadaire Zaman France, qui vient malheureusement de fermer ses portes. Merci beaucoup à tous les deux. On va retrouver maintenant, et c'est la grande nouveauté pour cette 7e saison de Culture Monde, Brice Couturier pour sa rubrique quotidienne, Le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et donc on continue de parler du capitalisme, c'est votre série cette semaine, et notamment de l'historienne américaine Joyce Appleby, dont vous nous parliez un petit peu hier, parce que les historiens divergent quant à la date de naissance du capitalisme. Qu'en dit justement votre Joyce Appleby, auteur de l'histoire du capitalisme dont vous nous parliez hier?
Eh bien, tout dépend évidemment, Florian, du facteur qu'on a élu d'emblée pour caractériser le capitalisme. Prenez Augusto Forti. Dans un livre paru au PUF, ce géophysicien fait de ce dernier, du capitalisme donc, l'enfant du machinisme et de la libre commune italienne de la fin du Moyen-Âge. Lorsque le moulin à eau, employé jusque-là pour moudre le blé, est utilisé comme source d'énergie par des scieries, des filatures, des papeteries, et que dans les villes naît une bourgeoisie qui refuse l'allégeance au seigneur local, le capitalisme devient possible. Encore fallait-il que fût levé l'interdit catholique pesant sur le crédit. Parce que pour les théologiens scolastiques, le temps appartient à Dieu et nul ne saurait exploiter son écoulement pour s'enrichir. C'est pourquoi, comme l'avait somptueusement décrit Jacques Le Goff, la fin du Moyen-Âge est marquée par le conflit entre le temps de l'Église et celui des ateliers et des marchands. La généralisation des horloges mécaniques au XIVe et XVe siècle serait donc contemporaine de la naissance du capitalisme.
Ma certitude est que les racines du capitalisme sont peu profondes et qu'il n'y avait rien d'inévitable ni de tendance favorable. Cette idée sape la vision téléologique de l'Occident moderne. Depuis le XVIIIe siècle, ébloui par les merveilleuses machines qui libéraient l'être humain, les gens ont décidé que cette modernité capitaliste était la destination vers laquelle l'histoire tendait depuis toujours.
Alors Joyce Appleby, que nous venons d'entendre, n'ignore pas le rôle joué par les Hollandais comme commerçants et banquiers de toute l'Europe au XVIIe siècle. Mais c'est en Angleterre qu'elle situe la véritable naissance du capitalisme au XVIIe et surtout XVIIIe siècle. Comme tout système, le capitalisme portera très longtemps la marque de son origine. Il parle dorénavant avec un accent anglais, dit-elle. C'est en Angleterre que l'Écossais James Watt perfectionne la machine à vapeur avec sa chambre de condensation. Elle démultiplie la productivité des travailleurs. Elle donne naissance aux premières usines textiles. Elle est utilisée pour pomper l'eau des mines de charbon. Mais il fallait aussi un environnement social et intellectuel favorable à la rationalisation. Le monde, écrit-elle, n'était plus un donné à étudier et à révérer, mais plutôt un travail en cours, quelque chose à améliorer. Ce que Weber appelle le désenchantement du monde. Et puis bien sûr, il fallait du capital désireux de s'investir profitablement.
Mais alors Brice, en quoi justement le livre de Joyce Appleby qu'on vient d'entendre renouvelle-t-il notre connaissance du capitalisme et en quoi peut-il nous servir à penser alors non pas le capitalisme anglais du 18e mais celui qu'on voit en ce moment se débattre sous nos yeux?
Eh bien d'abord parce que, je le disais hier, Joyce Appleby nous ramène en permanence vers Schumpeter. Et c'est certainement le théoricien qui a décrit au plus près ce que nous vivons aujourd'hui. Contrairement aux théoriciens dits classiques, Schumpeter ne croyait nullement que le marché était spontanément autocorrecteur, que dans le cadre de la fameuse concurrence parfaite, l'offre et la demande s'équilibraient, autorisant ainsi une affectation optimale des ressources. Au contraire, selon Schumpeter, le capitalisme avance par série de déséquilibres. Les nouvelles sources d'énergie, les nouvelles techniques de production, et puis bien sûr les nouveaux produits, poussent les anciens vers la sortie. Toute situation est bouleversée avant qu'elle ait eu le temps de se réaliser complètement, écrit-il. Et c'est pourquoi l'économie capitaliste est, je le cite encore Schumpeter, constamment révolutionnée de l'intérieur. Non pas sous l'effet de causes externes, comme par exemple les guerres, mais bien pour des causes internes organiques. C'est un ouragan perpétuel de destruction créatrice. Alors Schumpeter, il est mort en 1950, mais c'est bien ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui. La révolution numérique, pour ne prendre que cet exemple, condamne des secteurs d'activité qui ne l'adoptent pas, en assumant toutes ces conséquences qu'a des taxis face à Uber, qu'a de l'hôtellerie en ce moment face à Airbnb. Mais il s'est produit un événement, dit Joyce Appleby, que Schumpeter n'avait pas prévu. En renflouant les institutions financières pour sauver le système entré en crise de solvabilité, les gouvernements ont fourni une fausse indication au marché, à savoir, vous pouvez prendre les risques les plus fous, en cas de catastrophe, ce n'est pas vous qui paierez. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral. Or, comme Joyce Appleby, toujours elle, le dit dans son livre, le capitalisme sans faillite, c'est comme le christianisme sans enfer. Un moyen de punir le péché est apparemment aussi nécessaire en économie qu'en religion. Et comme l'écrit cette fois le directeur, d'ailleurs il est sur le départ, il s'en va cet été, de LSE, la London School of Economics, Greg Calhoun, la finance a pris la mauvaise habitude de mettre ses problèmes privés à la charge du public. Et cette montée de l'irresponsabilité fait partie de ces fameuses contradictions culturelles du capitalisme qu'avait pressenti Daniel Bell dans un livre fameux. Le premier capitalisme était puritain. Il parvenait à concilier les exigences politiques de la citoyenneté, les intérêts du bourgeois avec une culture individualiste tournée vers l'émancipation. Aujourd'hui, cet équilibre est introuvable et le capitalisme connaît des déséquilibres nouveaux. Eh ben, si vous voulez bien, Florian, on en parlera demain.
Eh oui, pourquoi le capitalisme porte en lui le germe de la crise? Ça sera une belle question qu'on abordera demain. Merci beaucoup, Brice, pour cette chronique. On peut évidemment retrouver votre tour du monde des idées sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Merci beaucoup, Brice. On se retrouve demain.